Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 1er février 2023, déjà un mois de passé. Et puis, comme on dit dans le monde merveilleux de la finance, so goes January, so goes the year. So, en gros, ça veut dire que si le mois de janvier est phénoménal, le reste de l'année sera phénoménal. Statistiquement parlant, c'est quelque chose qui marche de temps en temps. Espérons que ça marche cette fois. Le Nasdaq vient donc de vivre son meilleur mois de janvier depuis 2001. Le Bitcoin vient de faire son meilleur mois depuis 2013. Le CAC 40 vient de faire pareil que les deux premiers, même pour toute son histoire. On vient de découvrir un tout petit chiffre à l'intérieur d'un autre chiffre que l'on regarde quand on n'a vraiment plus rien à faire. Et ce petit chiffre en question montre que l'inflation est sous contrôle et que la Fed n'aura pas d'autre choix que de se décontracter du slip et montrer un visage un peu plus aimable ce soir. Espérons que le message que va nous faire passer Jay Powell tout à l'heure ne va pas être à l'opposé de ce que pensent les fédologues qui pullulent à Wall Street. La journée d'hier aura donc été l'inverse de celle de lundi. Et pourtant, j'ai beau creuser les infos dans tous les sens, je n'ai pas non plus l'impression qu'il y a eu un truc impressionnant dans tout ce qui a été annoncé hier, qui aurait pu nous faire tomber les chaussettes. Mais, je crois qu'on en a tellement pris dans les dents l'année dernière qu'on a entamé janvier 2023 avec des résolutions tellement positives et avec un coaching tellement intensif sur le concept du verre à moitié plein par opposition du verre à moitié vide que plus rien ne peut nous arriver. En dehors du Nasdaq ou d'un CAC 40 ou d'une LVMH qui nous ont fait le mois de leur vie, on retiendra aussi Tesla qui nous a fait un recovery du mois de janvier qui aurait fait envie à un trader en crypto ou encore le fonds Ark Invest de Katie Wood qui vient de reprendre près de 30% en 31 jours. C'est bien, encore 140% pour atteindre le prix du 1er janvier 2022. Et puis, pour ceux qui sont angoissés, je recommande fortement de ne pas aller voir comment le Nasdaq a terminé son année 2001 après avoir commencé le mois de janvier en fanfare. Mais bon, on ne va pas non plus gâcher notre plaisir alors que l'on nous annonce une bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Imaginez-vous, hier, le FMI a même eu le courage de nous faire des prévisions culottées pour 2023. Et croyez-moi, ça n'est pas leur genre de se mouiller. On sent vraiment un vent d'optimisme partout sur la planète. On dirait presque que l'on est dans un film hollywoodien et que on sait que ça va bien se terminer. Oui, hier, le FMI nous a fait une annonce digne des plus grands gourous de la finance à l'époque où il existait encore des gourous qui étaient bullish. Le Fonds monétaire international, cher à Dominique Strauss-Kahn, qui devrait être dirigé bientôt par Bruno Le Maire, lorsqu'il aura fini de mettre l'économie russe à genoux. Selon eux, les perspectives de l'économie mondiale se sont améliorées au cours des derniers mois en raison du ralentissement de l'inflation. Quel visionnaire, on n'aurait pas parié là-dessus. Mais ça n'est pas tout, parce que le FMI a également relevé ses prévisions de croissance mondiale à 2,9% contre 2,7% précédemment. Il estime que l'expansion s'accélérera pour atteindre 3,1% en 2024. En 2022, il estime que l'économie mondiale a progressé de 3,4%. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont même pas encore certains de la croissance de 2022, mais ils font déjà des paris pour 2024. C'est un peu comme si je vous communique aujourd'hui que les chiffres de l'euro-million du premier vendredi de septembre 2027 seront le 8, le 14, le 17, le 32 et le 41. Ça vaut ce que ça vaut, mais je n'en ai aucune idée. En revanche, si c'est les bons chiffres et que vous gagnez, pensez quand même un peu à moi. Tout ça pour dire que dans l'ambiance actuelle, si même le FMI arrive à nous sortir des bonnes nouvelles, c'est que le bear market est derrière nous. Sans oublier que pour couronner le tout, le FMI a estimé qu'il était peu probable que l'on rentre en récession. Enfin, à moins que Bruno Le Maire s'en occupe, bien sûr. Mais ça n'est pas que le FMI qui nous a fait monter le marché. Non, parce qu'en plus, les coûts des salaires ont augmenté de 1% au cours du quatrième trimestre de 2022, ce qui fournirait un autre signal comme quoi l'inflation des salaires a commencé à se ralentir. Les stars de la finance s'attendaient à ce que cet indicateur augmente de 1,1%, cette énorme différence fait que soudainement tout a changé et que c'est probablement sur cette différence de 0,1% que la Fed va prendre ou a pris sa décision de tout à l'heure. Donc, du coup, tout le monde parle de soft landing et de bonnes nouvelles pour la Fed. Ce chiffre, c'était l'Employment Cost Index. Alors bon, vous, je sais pas, mais moi, je pense que c'est tout à fait le genre de chiffre qui passe inaperçu depuis 114 ans et qui, tout d'un coup, tombe dans la lumière et fait terminer les marchés en hausse pour fêter la fin du mois. En tous les cas, la semaine prochaine, ça fera 18 ans que j'écris des chroniques tous les matins et je suis quasiment certain à 112% que jamais je n'ai utilisé le mot Employment Cost Index. Sauf que là, cette semaine, c'est son jour de gloire. Bref, à la fin, si vous mettez bout à bout le fait que tout va bien partout dans le monde et qu'il n'y a aucun problème économique et social, comme c'est bien évidemment le cas en ce moment, que le FMI est bullish sur la croissance et qu'il pense que la récession ne passera pas par nous, que vous nous sortiez un chiffre inconnu comme l'Employment Cost Index qui est plus faible que prévu et qui démontre qu'employer des gens, eh ben finalement, c'est pas si cher en ce moment, le marché, surtout la techno, ne pouvait que monter en cette veille de discours de Powell qui va changer le monde et qui fera que ce soir plus rien, mais plus rien ne sera jamais pareil. Pendant que tout le monde s'excitait sur le fait que les annonces d'hier allaient ramollir Powell et en faire une jolie colombe toute mignonne qui va résoudre le conflit russo-ukrainien avant que Zelensky ait drainé tous les arsenaux militaires européens, il y aura aussi pas mal de chiffres trimestriels, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que c'est la saison. Avant l'ouverture, nous avons donc eu droit à Exxon, qui a fait un carton et qui emmenait le reste du secteur pétrolier avec lui. Ensuite, il y a eu UPS, qui a fait mieux que les attentes, tout en étant prudent pour la suite. Et pour faire bon poids, bonne mesure, la société a annoncé un rachat d'actions et une hausse de dividendes. Tout ça pour prendre près de 5% sur la séance. Fortune diverses et variées pour McDo et Caterpillar, le vendeur de burgers a toujours des problèmes avec l'inflation et craint une récession. C'est probablement parce qu'ils n'ont pas écouté le speech du FMI hier. Caterpillar ont eu des soucis avec les variations des monnaies étrangères et les deux titres étaient en baisse, légère mais en baisse quand même. Notons aussi UBS qui terminait en recul de près de 2% après avoir annoncé un revenu net en hausse de 23%, mais que c'était pas assez pour les analystes. C'est plus difficile de faire bien quand t'es au top que de faire mieux quand t'es au fond du bac. Ça devrait mieux se passer pour le Crédit Suisse la semaine prochaine, parce que mis à part annoncer qu'ils ont un cluster de Covid et de grippe aviaire à la Bahnhofstrasse, on voit pas comment ça pourrait surprendre à la baisse. Et puis, dans les cartons de la journée, on retiendra GM qui a annoncé de très bons chiffres et aucune intention de couper les prix de ses voitures, contrairement à Ford et à Tesla. GM grimpait de plus de 8%. Lithium Americas prenait 14% parce que GM va investir chez eux. Spotify explosait 12% après une forte augmentation des abonnements. Et surtout, Victoria's Secret a révisé ses prévisions pour 2023 à la hausse, même si l'environnement devrait rester challenging. La société annonce également un programme de rachat d'actions. Et puis, pour terminer, avec les bonnes nouvelles pour la Fed, PayPal vire 2000 employés, soit 7% de son staff. Ça devrait surtout rassurer Powell qu'il n'a plus besoin de monter les taux parce qu'à la fin, c'est tout ce qui nous intéresse. Ça et les chiffres des trois gros de jeudi soir et un peu les non-farm payroll, et puis aussi un peu le CPI de la semaine prochaine. Bref, tout à l'heure, il y a la Fed qui va parler. On ne va donc pas se mentir, mais je crois que l'Asie ne fait rien ce matin parce qu'ils attendent de voir ce que la Fed va annoncer et si Powell va nous refaire un Mawashigeri coup de pied circulaire comme Jackson Hole ou si tout va bien se passer parce que nous sommes dans le monde des bisounours qui auraient engagé Casimir pour mettre de l'ambiance. Les trois indices principaux ne font strictement rien, même si les données du PMI chinois étaient meilleures ce matin. Elles montrent encore une contraction, mais elles étaient meilleures. Du côté du pétrole, on est à 79,14 et visiblement c'est plus simple et plus rémunérateur d'être une société pétrolière qu'un baril. L'or est à 1941$ et le bitcoin est à 23 000$ et des poussières. On notera que SBF, Sam Bankman-Fried, est en train d'hurler à la mort pour reprendre le contrôle de FTX parce que certains business sont encore viables selon lui. On pensait que Madoff était arrogant en son temps, mais en fait, il a trouvé son maître. En dehors du fait que Jerome Powell il va parler, il y a encore eu pas mal de chiffres hier soir, il faudra tout de même noter les chiffres de Snap. Snap a tout de même réussi à nous sortir un trimestre bien pourri dont ils ont le secret. Pourtant, vu le dernier trimestre, on pensait que faire pire, ça devenait tout de même compliqué. Mais que nenni, les équipes de Snap ont tout mis en œuvre pour nous faire une doublette magique. Les recettes publicitaires sont en baisse, la guidance est inexistante, ils sont supposés que la doublette pourrait se transformer en triplette. C'est marrant. Qui aurait cru qu'une application qui a surtout pour but de vous prendre en photo avec des oreilles de chien et un nez de cochon ne parviendrait pas à trouver son public? Le titre perdait 14% after close, mais 14% de pas grand chose, finalement, ça n'est rien. Depuis septembre 2021, Snap a perdu 88% et à peu près toute sa crédibilité. De l'autre côté, très bon chiffre chez AMD, c'est propre et ils sont en train de pulvériser Intel, c'est ce qu'il faut retenir. Le titre prenait 3% after close et puis Electronic Arts plongeait également de 10%, chiffre raté et vente en baisse. Et dans les mauvaises nouvelles, faudra aussi noter les commentaires de Jim Chanos, un permabear qui a eu quelques succès dans sa vie et qui pense que le scénario qui justifie la hausse des marchés actuellement a probablement été écrit par un type qui rédige des contes de fées toute la journée. Il pense que le S&P 500 a encore un bon bout de chemin à faire à la baisse avant de toucher le fond. Pour ceux qui cherchent des raisons de tout vendre, retenez donc bien ce chiffre, -8,4%. C'est la baisse des commandes des cartons pour l'expédition des marchandises. En gros, ça signifie que les sociétés de e-commerce en ont moins besoin parce qu'il y a moins de commandes, ce qui veut dire que le consommateur consomme moins. Alors bon, vous me direz, c'est du pipeau parce que ça veut rien dire. Oui, mais disons que comme la dernière fois que ce truc s'est affiché en baisse comme ça, nous étions en 2008, je vous laisse vous plonger dans les livres d'histoire de la finance pour vous remémorer ce qui s'est passé ensuite. Si vous trouvez pas, vous pouvez toujours lancer un coup de fil à monsieur Nouriel Roubini. Côté militaire, les Américains accusent les Russes de ne pas respecter les accords concernant le nucléaire. On voit que ça chauffe lentement, mais sûrement. Il y a aussi Zelensky qui demande des avions de chasse tous les jours. Les Français qui, par la voix de son roi, n'est jamais en France, et ne s'y oppose pas, en tous les cas. Oui, parce que contrairement aux tanks, les Français ont des avions de chasse. Bon, les Ukrainiens n'ont pas de pilote, mais ça, c'est un détail. Là, ça devient passionnant à lire et à écouter sur BFM TV, surtout qu'ils ont ressorti plein d'experts qui bossaient pour eux à l'époque du Covid et après une formation express sur Twitter, les gars sont passés de la virologie à la stratégie militaire documentée sur Snapchat. Et puis donc, tout à l'heure, nous aurons donc Jérôme Powell qui parlera. On espère qu'il nous dira ce que l'on veut entendre. Sinon, demain matin, ça sera journée saut en parachute, mais sans parachute. Entre deux, il y aura le CPI en Europe, les JOLTS, les ISM, et grosso modo, tout le monde s'en fout, parce qu'on attend simplement la bonne parole de Powell qui nous permettra de marcher sur l'eau et de multiplier les pains d'ici ce printemps avec un tout petit peu d'entraînement. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,3%. Et demain sera un autre jour. Que la force soit avec vous. Et puis si après la fête vous vous ennuyez, il y aura encore les résultats de Meta à décortiquer. Excellente journée. Quant à moi, je vais regarder les chiffres de Roche. À demain et très très, alors, très bonne journée.